Vous écoutez, on lit pour vous.
Isabelle Picard, Défricher le réel, un texte de Claudia Larochelle, paru le 11 juin 2024 dans Les libraires. J'accepte mes origines, mais que vais-je en faire? Se demandait le poète et visionnaire Aimé Césaire. C'est avec cette même grandeur du célèbre Martiniquais décédé en 2008 que l'ethnologue, communicatrice et autrice originaire de Wendake, Isabelle Picard, aussi spécialiste des Premières Nations, embrasse une percutante et fort actuelle réflexion. Dans « Des glaçons comme du verre », un premier roman destiné à un lectorat adulte, elle s'est inspirée de sa trajectoire familiale pour revenir, dans un savant mélange de force et de délicatesse, sur un épisode encore trop méconnu de l'histoire canadienne. La rafle des années 1960, l'enlèvement massif d'enfants autochtones au pays à partir de 1951, qui peut se vanter aujourd'hui d'en avoir été mis au fait, ne serait-ce que pendant son parcours scolaire? Sans doute pour contribuer à la transmission essentielle de cette période aux incidences tragiques sur les communautés autochtones, mais aussi pour transcender les déchirures du passé des siens, Isabelle Picard chérissait un tel projet d'écriture depuis longtemps. La dernière fois qu'elle était allée se recueillir sur les tombes de ses grands-parents Picard, il y a quelque 20 ans de cela, elle avait remarqué les cassures sur la pierre tombale de sa grand-mère et l'épitaphe quasi effacée sur celle de son grand-père. À sa dernière visite, avant la vertigineuse création de ce livre, elle s'est aperçue qu'une personne dévouée s'était occupée de leur refaire une stèle. Pour qu'on se souvienne d'eux, c'était peut-être un signe que le temps était venu pour elle d'éclairer enfin une histoire demeurée floue et nébuleuse. Puis, un jour qu'elle se trouvait en forêt sur le territoire que son grand-père avait arpenté tellement de fois comme guide 70 ans auparavant, elle a ressenti le besoin de savoir. Comme un grand besoin, précise-t-elle dans sa magnifique introduction, donnant encore plus d'intensité à ses motivations. Telle une enquêtrice, elle a entrepris des recherches aux archives publiques, dans sa communauté, puis auprès de membres de sa famille, dont ses propres parents toujours vivants, ajoutant ainsi quelques pièces au casse-tête incomplet de ses origines. Belle et Henri. Il faut dire que la matière de base était riche. L'amour entre Belle et Henri Picard, les parents de son père. Le couple s'était rencontré à la manufacture de raquettes où tous deux travaillaient à la fin des années 1930. Elle, Beauceronne, lui, Huron. Puis, elle avait quitté son poste. Il n'avait cessé d'y penser. L'histoire aurait pu finir ainsi si ça n'avait été de cette fois, 4 ans plus tard, où Belle avait recroisé le beau Henri au château Frontenac, où il chantait sur la scène principale. La suite, qu'il faut lire, donne des frissons et fait pleurer aussi. C'est toujours ainsi quand une mère de famille nombreuse, aimée des siens, succombe à un cancer. Or, c'était encore pire quand la tragédie survenait au sein de Smalas autochtones entre 1951 et la fin des années 1960, période marquée par la rafle du gouvernement qui donnait le feu vert pour enlever des enfants des communautés et ensuite les placer dans des familles d'accueil, des orphelinats, des écoles de redressement, des pensionnats ou les faire adopter. Même si leurs parents, ou au moins l'un des deux, était encore vivant. Ça se passa ainsi chez les Picards. Les conséquences furent terribles pour le père impuissant et désemparé, sur ses enfants aussi, qui écopèrent chacun à leur façon de ces déracinements. C'est donc en partie cette histoire qu'a prise à bras-le-corps celle qui, du côté de la fiction, avait surtout donné en jeunesse, avec la série à succès niche, Les Malins, la restituant dans un récit mi-fictif, mi-réel, narré sur deux époques. Juste au bon moment. Si j'avais écrit une histoire comme celle-là il y a 10 ans, dans un autre contexte, les gens n'auraient pas tout compris. Maintenant, je sens plus d'ouverture. Socialement. C'était le bon moment, raconte l'autrice. Personnellement, pour elle aussi, c'était devenu le bon moment. J'étais en pleine crise de la quarantaine. C'est souvent là qu'on se tourne vers l'avenir avec l'envie de saisir mieux son passé, ses origines, ne serait-ce que pour faire des liens. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Le préambule de son opus ne saurait être plus clair. Elle voulait connaître la vérité, sa vérité, et l'écrire. Elle était écrivaine. Elle l'avait toujours su, quelque part en dedans d'elle. Mais qui était-elle pour écrire? Qu'avait-elle à dire? La quarantaine avait ça de bon, elle n'avait plus peur. Elle se fichait bien de ce qu'on penserait d'elle. Alors, et juste à ce moment, elle se dit que c'était bien ce qu'elle était, une écrivaine. Et elle écrirait, comme petite fille de Belle et Henri. Elle écrirait donc en 6 mois, seule dans un chalet au bord de l'eau en Nouvelle-Écosse, à Wendake, et sur le territoire de ses ancêtres autochtones. Elle écrirait avant que les dernières voix de sa lignée se taisent à tout jamais. Bien que ce fût souvent douloureux, le travail a aussi été traversé par des instants de pure splendeur. Quand j'ai découvert que mon grand-père avait été chanteur au château Frontenac, ce qui n'était pas commun pour ceux qu'on appelait les Indiens, je me suis dit qu'il devait avoir toute une voix. J'ai aussi réalisé en partie pourquoi je chante et d'où vient le talent de mon père. C'est aussi venu me réconcilier avec ce personnage qu'on m'avait décrit comme quelqu'un qui pouvait être bourru. Il y avait tellement de non-dits, de lourdeur dans ce passé, ça rendait soudain les affaires plus concrètes. J'ai enfin pu mettre des mots là-dessus, sur une douleur profonde. J'ai vu surtout qu'il y avait beaucoup d'amour dans cette histoire filiale, constate Isabelle Picard, qui avoue avoir dû faire de longues pauses pour intégrer le flux d'émotions. Mère de 2 jeunes de 16 et 19 ans, celle qui faisait aussi paraître « L'homme aux deux visages » le 28 mai dernier aux éditions Anne Norac, une nouvelle sur un écrivain dépressif de retour dans sa communauté autochtone, embrasse plus que jamais l'écriture de fiction. Désormais, c'est à son tour de laisser une trace, de remettre entre les mains de ses contemporains la mémoire de ses aïeux pour que jamais on oublie, pour que jamais on ne repasse par les mêmes chemins tortueux. C'était Isabelle Picard, Défricher le réel, un texte de Claudia La Rochelle, paru le 11 juin 2024 dans les libraires.
Jean Roy, une entrevue réalisée par Joséanne Paradis, parue le 5 février 2024 dans le magazine Les Libraires. Véritable amoureux de la nature, l'artiste Régent Roy, qui a d'ailleurs fait des études en biologie ainsi qu'en beaux-arts, demeure au Nouveau-Brunswick. Il commence sa carrière en tant qu'illustrateur scientifique et se mute ensuite comme illustrateur d'albums pour la jeunesse. Une quarantaine, à ce jour, porte sa marque distinctive. Également peintre qui fait honneur aux grands espaces et aux rivières qu'il affectionne, il collige ses œuvres grandioses sur le site regent.ca. Une grande place est faite à la faune et à la flore dans les livres que vous illustrez. Vos peintures, quant à elles, rendent hommage à ce qu'il y a de plus grandiose dans la beauté des paysages naturels. Quelle place occupe la nature dans votre vie et pourquoi appréciez-vous autant la mettre en scène? Les espaces naturels m'ont toujours donné une impression de bienveillance sur moi. Dès mon jeune âge et à l'adolescence, la forêt, les lacs et les rivières ont été des lieux qui m'ont permis de vivre plein de belles aventures et ainsi d'avoir une perception bien singulière sur la vie. Et en même temps, j'ai appris à être sensible aux formes et aux couleurs de l'environnement naturel. J'ai appris à reconnaître ces motifs qui sont pour moi une façon dont la nature s'exprime en quelque sorte. Lorsque je peins, c'est comme si j'essaie de retransmettre ces impressions laissées par un paysage ou par un moment passé dans la nature. La couverture du présent numéro que vous illustrez place un équipage sur une rivière en route vers ce qu'on devine être des lieux de découverte. Que vouliez-vous raconter comme histoire avec cette image? Compte tenu de mon intérêt pour le plein air et le canot, j'ai toujours été fascinée par l'époque de la traite de la fourrure au Canada. J'ai représenté les voyageurs dans mon illustration parce que ce sont surtout des Français accompagnés des gens des Premières Nations qui occupaient ce métier. D'après ce que je comprends de cette période, la traite de la fourrure a joué un rôle dans la distribution des communautés francophones dans le territoire. Dans l'illustration, les villages représentent les communautés francophones actuelles qui peuvent être relativement isolées entre elles. La rivière, ou le courant de mots et de paroles, représente la littérature qui les relie. Les voyageurs dans le canot, ce sont les auteurs, les facilitateurs d'événements littéraires, les éditeurs, etc. J'ai inséré une caricature de Gabrielle Roy. Elle a écrit un de mes romans préférés, « La montagne secrète », une histoire inspirée de la vie de René Richard, trappeur et peintre. Lorsque vous travaillez comme illustrateur jeunesse, votre démarche artistique est-elle sensiblement la même que dans votre travail de peintre professionnel? Ma démarche artistique en tant que peintre est terriblement personnelle et solitaire et est sujette à une impulsion expressive qui part de mes expériences lors de voyages en canot ou de sorties en forêt. Alors que mon travail d'illustrateur jeunesse, lui, est effectivement un antidote à la solitude. Elle permet de m'inspirer et d'épauler le travail de l'autre. Elle me permet de travailler en équipe et d'interagir pour créer une œuvre collaborative. Je m'occupe d'ailleurs du montage graphique des livres que j'illustre et le tout est sujet à la rétroaction de l'éditeur, du correcteur, de l'auteur, etc. Toutefois, les œuvres littéraires que je choisis d'illustrer toucheront la plupart du temps une corde sensible et personnelle. Dans ce cas, je peux y mettre un peu plus de moi-même dans le travail. Je suis d'ailleurs plus confortable lorsque je dois dessiner des arbres et des animaux, même si ceux-ci demandent à être caricaturés. Vous avez signé les illustrations de près de 50 livres jeunesse, allant de couvertures de romans à des abécédaires émérites. Qu'aimez-vous dans cet aspect de votre travail qui s'adresse à un tout autre public qu'à celui de vos toiles? Les enfants sont-ils un public dévoué, indulgent ou critique? J'adore être inspirée et créer un monde visuel à partir de l'imaginaire de l'auteur. Selon le contexte de l'histoire racontée, j'aime créer des images parfois farfelues, ajouter des détails extravagants ou créer un contexte ou un arrière-plan qui va au-delà de l'intention de l'auteur, mais qui risque d'interpeller le lecteur, surtout le lecteur jeunesse. Parenthèse, effectivement, je suis moins concernée par le public que par ce qui m'enchante lorsque je dessine. Fin de parenthèse. Mais si je m'amuse, le lecteur s'amusera possiblement. Mais cela étant dit, il reste que mes propres enfants sont mes plus grands admirateurs. Dans Le géant du Nord canadien, Bouton d'or Acadie, texte inspiré d'une légende autochtone, vous deviez mettre en scène un géant glouton piégé par des huards qui, dit-on, créa les lacs qui font aujourd'hui la renommée du Canada. Parlez-nous de la création de cet album. L'histoire du géant canadien est une histoire que je racontais à ma façon à mes enfants lorsque je les amenais en canot camping. Nous nous rendions souvent à un lac qui nous est bien familier. Ce sont vraiment les paysages de ce lac dont je me suis inspirée pour créer les images. Évidemment, le lac n'est pas aussi grand que le lac original. Toutefois, il y a toujours un couple de huards, souvent accompagnés de leurs petits, qui nous chantent la plainte chaque soir. Dans « Où naîtront les hirondeaux », Bouton d'or Acadie, touchante histoire de cohabitation entre l'homme et les animaux, une hirondelle doit se trouver un nouveau lieu pour pondre ses œufs. Quel a été le plus grand défi, ou votre plus belle découverte, lors de la création des illustrations pour cet album signé Émilie Demers? Je crois que le défi d'illustrer ce livre est aussi le défi de notre époque. Je voulais bien représenter la nature, mais aussi représenter une sorte d'équilibre entre cette vie moderne que nous avons et celle où nous offrons un habitat convenable pour la faune et la flore. Avec Sylvain Rivière, vous avez fait paraître l'abécédaire A pour Atlantique, Bouton d'or Acadie, un ouvrage qui rend hommage aux mots liés au domaine maritime. Les trésors des mers autant que les mythes de Neptune ou les sorties en kayak. Quelle relation, pour votre part, entretenez-vous avec l'Atlantique? Mon village natal est situé sur le bord de la mer. J'y habite encore, d'ailleurs. La mer, je l'ai explorée en bateau, en canot et en kayak. J'ai passé de longues heures à explorer ses rives. Parenthèse, dans le but d'en faire l'expérience, je me suis fait engager pour travailler sur un bateau de pêche au homard. Fin de parenthèse. Donc, A pour Atlantique décrit un environnement bien familier pour moi. C'était Régent Roy, une entrevue réalisée par Joséanne Paradis, parue le 5 février 2024 dans le magazine Les Libraires.
Cliquez pour devenir Canadien. Une chronique de Conrad Yakabouski, parue le 22 juillet 2023 dans Le Devoir. La fête du Canada ne se déroule pas de la même façon partout au pays. À l'extérieur du Québec, dans la plupart des communautés, les cérémonies de prestation du serment de citoyenneté sont organisées dans le cadre des célébrations locales planifiées pour accueillir des immigrants récents dans la grande famille canadienne. Ces cérémonies, remplies d'émotion et de patriotisme, servent à rappeler aux natifs du Canada la chance qu'ils ont d'être nés ici. Certes, des cérémonies de prestation ont aussi lieu au Québec, mais elles sont rarement aussi médiatisées que dans le reste du Canada, où les journaux et les bulletins de nouvelles télévisés en parlent abondamment. Beaucoup d'experts en immigration considèrent que la cérémonie de prestation du serment constitue une étape indispensable dans la formation de tout bon citoyen et dans la création, chez ces nouveaux venus, d'un sentiment d'appartenance au Canada. En 2021, le serment a été modifié afin d'inclure une obligation de la part des nouveaux citoyens de reconnaître et de respecter les droits ancestraux issus des traités signés avec les peuples autochtones, en conformité avec l'une des recommandations de la Commission de vérité et réconciliation. Le serment de citoyenneté du Canada est un engagement envers ce pays, et cela comprend le projet national de réconciliation, avait expliqué le ministre de l'Immigration de l'époque, Marco Mendicino. Les nouveaux Canadiens doivent aussi jurer d'être fidèles au roi Charles III. Contrairement à l'Australie, qui a modifié son serment de citoyenneté en 1994 pour enlever toute référence à la couronne britannique, le Canada continue d'exiger que les nouveaux venus promettent d'être loyaux aux locataires du palais de Buckingham. En 2015, la Cour suprême du Canada a refusé d'entendre l'appel de trois résidents permanents qui avaient prétendu que l'obligation de prêter serment au monarque violait leur droit à la liberté d'expression et de religion. Ils avaient été déboutés devant la Cour d'appel de l'Ontario, qui avait déclaré que la référence au monarque était purement symbolique, celle-ci évoquant notre forme de gouvernement et le principe non écrit de démocratie qu'il sous-tend. Or, voilà qu'Ottawa s'apprête à permettre aux résidents permanents de prêter leur serment de citoyenneté en cliquant simplement sur une case en ligne sur le site web d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC. Plus besoin de prononcer le serment à voix haute devant un juge. Cliquez ici et vous deviendrez Canadien. La proposition dont on n'a presque pas parlé au Québec a créé un tollé ailleurs au Canada. L'idée selon laquelle le Canada, qui est peut-être le pays au monde ayant eu le plus de succès en matière d'immigration, pourrait recourir à un moyen automatisé pour dire « vous êtes maintenant citoyen » est odieuse, a déclaré plus tôt cette année l'ancienne gouverneure générale du Canada, Adrienne Clarkson, elle-même arrivée au pays comme réfugiée en 1942. L'ancien maire de Calgary, Naheed Nanshi, fils d'immigrants musulmans d'origine tanzanienne, tout comme l'ancien ministre libéral de l'immigration Sergio Marquis, né en Argentine, ont dénoncé publiquement la démarche d'Ottawa. Andrew Griffith, un ancien haut fonctionnaire à l'IRCC, a même lancé une pétition. Parrainé par le député conservateur Tom Mieck, lui-même immigrant polonais, qui somme le gouvernement de Justin Trudeau de renoncer à permettre l'auto-administration du serment de citoyenneté, ainsi que de rétablir la primauté des cérémonies en personne et de réduire à 10% la proportion de cérémonies virtuelles. Ces dernières ont pris leur envol durant la pandémie. Mais certains experts, comme M. Griffith, croient qu'elle ne devrait se substituer aux cérémonies en personne qu'en cas d'exception. La continuation post-pandémie des cérémonies virtuelles, tout comme la proposition de permettre l'auto-administration du serment, sont des réponses aux arriérés à l'IRCC. Le ministère n'arrive plus à traiter les demandes d'immigration et de citoyenneté dans des délais raisonnables. Des résidents permanents approuvés pour devenir citoyens doivent attendre environ 19 mois avant d'être convoqués à une cérémonie de citoyenneté. Le ministre de l'Immigration, Sean Fraser, vise à réduire l'attente en autorisant l'option de l'auto-administration. Mais M. Griffith se demande si une partie du problème ne découle pas du fait que les seuils d'immigration sont déjà trop élevés pour l'appareil gouvernemental. Plus de 1,2 million de nouveaux résidents permanents sont arrivés depuis 3 ans, alors qu'Ottawa cherche à hausser le seuil annuel à 500 000 ou plus dès 2025. Si la plupart de ces nouveaux résidents permanents ont pour objectif de devenir des citoyens canadiens, l'auto-administration du serment deviendra incontournable. IRCC peine déjà à répondre à la demande. Imaginez ce que sera la situation dans 5 ans. Ce n'est là qu'une des raisons pour lesquelles la politique d'immigration du gouvernement semble déconnectée de la réalité. Dans une étude publiée cette semaine, l'économiste chez Desjardins, Randall Bartlett, avance qu'il faudra encore plus d'immigrants pour contrer les effets du vieillissement de la population canadienne dans les années à venir. Mais il ajoute un gros bémol, comme la croissance démographique continue de faire grimper les prix des maisons et de miner l'abordabilité à court terme, le gouvernement fédéral doit tenir compte de cette situation dans sa politique d'immigration, en particulier en ce qui concerne les résidents non permanents. Sa politique d'immigration doit s'accompagner d'actions immédiates pour augmenter l'offre de logements. Or, rien n'indique qu'Ottawa s'apprête à agir en ce sens. Après tout, on ne peut pas construire des maisons en un clic. C'était « Cliquez pour devenir Canadien », une chronique de Conrad Yakabuski, parue le 22 juillet 2023 dans Le Devoir.
On aime la télé. Un texte de Marc Boucher, paru le 28 mars 2024 dans Le Devoir. Dans le cahier Culture, on a vanté, avec raison, le succès de Sylvie Lussier et Pierre Poirier à la télévision populaire. On y évoque l'amour démesuré de la télé par les Québécois et leur propension à réagir au narratif comme si c'était la vraie vie. Ainsi, on écrit aux auteurs, via les réseaux sociaux, quoi d'autre, nos joies et nos désaccords sur des événements qui n'ont existé qu'à l'écran. Doit-on vraiment être fier de cet engouement de notre part à se mettre à croire, devant une télévision ou autres écrans, que tout ce que l'on y voit est mieux que le réel? Fier aussi de voir la panoplie de revues qui traitent principalement de ce qui arrive aux comédiens et comédiennes dans leurs aventures fictives. Pendant que nous offrons notre regard à ce qui ressemble trop souvent à un écran de fumée, le réel, aussi naturel que social, en prend un méchant coup, car nous n'y sommes pas pour le percevoir et réagir en conséquence, ni devant sa dégradation, ni devant sa beauté. Comme le disait le philosophe Gunther Anders, la télévision crée des ermites de masse. Tout le monde regarde la même chose, mais seul devant la lumière syncopée de son écran. Il serait illusoire de penser que ce phénomène est vraiment rassembleur, et s'il l'est, devant la machine à café au bureau, devenue une sorte de chambre d'écho où tout le monde a vu le même Super Bowl, la même émission de « Tout le monde en parle » ou la même télé-réalité de l'heure, il faudrait se demander à quoi bon. C'était « Ici, on aime la télé ». Un texte de Marc Boucher, paru le 28 mars 2024 dans Le Devoir.